Initialement, il y a 3 ans, il y a 4 ans maintenant, je travaillais sur l'agentivité, l'agency, qui redéfinit les questions de genre entre féministes musulmanes et rigoristes piétistes. Et en fait, mon terrain m'a complètement fait transformer ma perspective de thèse, à savoir que l'impact de l'islamophobie dans la vie des femmes que je rencontrais pour cette question-là était tellement prégnant, tellement important, que j'ai transformé mon sujet, enfin il s'est transformé avec le terrain. C'est le travail du chercheur aussi de pouvoir s'adapter à son terrain, qui est aujourd'hui l'impact de la nouvelle laïcité. La nouvelle laïcité, c'est celle définie par Barouin en 2003, juste un tout petit peu avant les résultats de la commission Stasi de 2003. Avant le discours du président de l'époque, Jacques Chirac, le 11 décembre 2003, qui présentait la future loi sur l'interdiction des signes religieux ostensibles, ostentatoires à l'école, dans les établissements publics. Et donc, c'est ce que Barouin appelait la nouvelle laïcité. Et donc, l'impact de cette nouvelle laïcité, finalement, s'est étendu dans d'autres champs que celui de l'école, et on va y venir pendant ma communication. Et en fait, en rencontrant ces femmes avec qui je voulais parler de leur agency, je vais vous définir tout ça, la capacité d'agir, je me suis rendu compte que la première agency qu'elles devaient développer, c'était pas liée directement à une domination patriarcale qu'elles subissaient quotidiennement, mais à une domination qui était plus forte, qui était celle du pouvoir politique et qui finissait par les limiter professionnellement, socialement, économiquement, etc. Donc je vais revenir sur des expériences collectives en tentant d'inscrire la naissance des mouvements féministes décoloniaux, et vous allez comprendre pourquoi on parle de féminisme décoloniaux ici, dans le contexte socio-historique qui est le nôtre depuis 2003. Je partage donc dans cette communication à la fois des initiatives auxquelles j'ai participé et d'autres que j'ai observées, sachant que pour me situer, aujourd'hui je suis doctorante en sociologie, mais j'ai moi-même été, j'allais dire victime, en tout cas sujet, de, pas de la nouvelle laïcité, mais de ce qui la précédait, c'était la circulaire Bayrou en 1994. Et donc, en fait, je m'inscris aussi en termes militants, dans le féminisme décolonial, en particulier le féminisme musulman. Et donc, on va revenir là-dessus dans mon propos pour essayer de prendre une distance par rapport à ça et pouvoir analyser les ressorts de ces mouvements-là. Dernièrement, j'ai fait une intervention avec Christine Delphi, qui présentait. Sylvie Tissot et Florence Tissot ont fait un documentaire sur elle. Qui s'appelle « Je ne suis pas féministe, mais » et qui vient de manière réflexive sur le parcours de Christine Delphi. Et on voit bien que dans les premières réunions du MLF, eh bien, les femmes qui s'inscrivaient dans le MLF étaient des femmes qui étaient engagées, conscientes d'une domination qu'il fallait dénoncer, qu'il fallait combattre. Et aujourd'hui, je peux dire que le féminisme décolonial en France est aussi un féminisme de femmes qui se retrouvent engagées aussi d'abord contre l'islamophobie, avec tout ce que ça va impliquer en termes de déconstruction de discours et de même culturel, par exemple, dans leur vie quotidienne. Alors, islamophobie et contrôle politique du corps des femmes. En fait, je vais d'abord m'appuyer sur une tribune qui a été publiée chez Mediapart, qui est intitulée pour en finir avec le contrôle politique du corps des femmes. Cette tribune, elle a été écrite par 5 femmes musulmanes féministes qui dénoncent les propos de la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, qu'elle avait tenue lors d'une émission télévisuelle concernant la modest fashion portée par de grandes marques telles que H&M, Uniqlo, Marks & Spencer ou encore Dolce & Gabbana. Depuis, il y a Nike, il y a je ne sais plus qui, enfin, se sont tous mis à la modest fashion. Et donc, lors de cette interview qui porte sur une tendance de la mode, la ministre explique que la manière de se vêtir est corrélée à une façon de vivre Elle explique que le raccourcissement des jupes dans les années 60 est lié aux avancées féministes pour les droits des femmes, la possession d'un compte en banque, étudier à l'université, la contraception, le vote. Et en fait, je vais vous laisser l'écouter vu qu'elle a réussi à le mettre.
Écoutez, Jean-Jacques Bourdin, Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Nous allons regarder sur RMC Découverte quelques images de femmes qui défilent, voilà, qui sont couvertes. Hein, vous les voyez, regardez-les bien, hein, Laurence Rossignol. Je vais les décrire. Elles ont un foulard ou elles ont un hijab, qui est un voile islamique. Quoi. Plusieurs grandes enseignes de la mode se lancent dans des vêtements adaptés aux traditions musulmanes. Marks & Spencer, qui annonce qu'elle allait lancer un maillot de bain intégral, un burkini pour les femmes musulmanes, un burkini, maillot de bain intégral. H&M, qui fait de la pub avec une femme aux cheveux couverts. Uniqlo, qui a annoncé la mise en vente de hijab, de voile islamique et d'autres, Dolce & Gabbana, enfin bon, etc., etc. Vous en pensez quoi, franchement? Dites-nous, vous êtes ministre du droit des femmes.
Absolument, et c'est à ce titre-là d'ailleurs que j'en pense quelque chose. Parce que ce qui m'a frappé, c'est les justifications, les arguments que donnent ces marques, qui expliquent en fait que c'est juste des vêtements, mais qu'ils ne font la promotion d'aucun mode de vie. Comme s'il y avait une dissociation entre les vêtements et les modes de vie. Or, dans l'histoire, par exemple dans les années 60, fin des années 60, les femmes peuvent avoir un compte en banque, elles vont à l'école, elles vont à l'université, elles accèdent à la contraception et en même temps les jupes raccourcissent. Ce qui prouve bien, ou elles mettent des pantalons aussi. Ce qui prouve bien qu'entre la tenue des femmes et leurs droits, il y a un lien. Parce que l'enjeu, c'est celui du contrôle social sur le corps des femmes. Et lorsque des marques, comme toutes celles que vous venez de citer, investissent ce marché de la tenue
parce qu'il est lucratif
et c'est un marché pour les pays d'Europe, c'est pas un marché pour les pays du Golfe. À ce moment-là, ils se mettent en retrait de leur responsabilité sociale et d'un certain point de vue, ils font la promotion de cet enfermement du corps des femmes. Bien sûr que ça me choque, parce que quand on enferme le corps des femmes sous des vêtements qui vont des orteils jusqu'au bout des doigts, l'enfermement global n'est pas loin pour elle derrière. Et mon sujet, c'est l'ensemble des femmes musulmanes qui vivent en France aujourd'hui et qui sont sous la pression, sous l'emprise grandissante de groupes salafistes qui se sont mis en situation de dire aux musulmans de France « voilà qui est un bon musulman et qui n'est pas un bon musulman ». Et en fait, ces musulmans qui demandent qu'à vivre, 4,5 millions de musulmans qui vivent en France et qui demandent qu'à vivre dans le respect des lois de la République, mais aussi dans le bénéfice des lois de la République. Parce que la République apporte aux femmes de l'égalité, apporte à tous de la fraternité et à chacun de la liberté. Or, ces tenues, elles révèlent l'enfermement du corps des femmes. Et bien entendu, nous observons que c'est accompagné dans de nombreux quartiers de phénomènes sur la voie publique qui sont très intéressants à observer. Par exemple, on voit de moins en moins de femmes dehors, dans la rue, dans les cafés. On voit de moins en moins de femmes vivre de manière libre dans leur quartier. C'est pour ça d'ailleurs, et c'est ce que je fais de ma place, ça ne suffit pas de commenter, il faut aussi aider. Ce que je fais de ma place, c'est que j'aide, je suis avec attention ce que font des groupes de femmes.
Vous ne pouvez rien faire, là. Ce sont de grandes marques qui mettent ces femmes à la devanture. Je lisais un sociologue de la mode qui disait on assiste à un véritable tournant. Pour la première fois, des tenues islamiques sont créées. Il y a un enjeu idéologique et financier, mais il y a un enjeu idéologique contre lequel. Mais vous pouvez quoi?
Mais ce qu'on peut faire d'abord, c'est parler, c'est dire, c'est mettre des mots sur ce qui se passe. Et c'est surtout.
Pas interdire, pas question d'interdire.
La vie ne se passe malheureusement pas en façon binaire entre j'interdis et j'autorise. Bien sûr, on ne peut pas interdire, mais en même temps, ma place, mon rôle, c'est d'aider les femmes qui veulent résister à cette emprise des salafistes dans les quartiers. Et il y en a. Il y a des groupes de femmes à Aubervilliers, par exemple. Il y a des femmes qui, tous les 15 jours, s'installent dans un café de manière ostentatoire en disant « les cafés, c'est aussi pour les femmes, on n'est pas recluse à la maison ». Il y a la brigade des mères qui fait quelque chose d'identique, c'est-à-dire qui résiste à cette pression, à cette emprise salafiste. On est vraiment, le mot emprise qu'on utilise pour les sectes est un mot qu'il faut utiliser pour l'emprise salafiste. Et qui sont une menace pas tant pour la société française, je ne crois pas au grand remplacement et à, oui. toutes, à tous ces fantasmes que développe une extrême droite qui manipule la laïcité en faisant juste un appel à notre cerveau reptilien et à la peur de l'autre. Ce que je crois en revanche, c'est que nous avons le devoir de garantir à tous ceux qui vivent en France et aux franco-musulmans qu'ils y vivent bien. Et ils vivent bien, c'est les protéger de ces menées, de ces gens qui se sont mis en situation de dire « c'est nous qui disons la loi mais publique
savez,
et la loi sociale ».
La pression sociale est telle sur de nombreuses femmes qu'elles résistent puis elles abandonnent.
Mais elles résistent, elles abandonnent si elles ne sont pas soutenues, si elles oui. ne sont pas aidées. On a fait des grandes erreurs dans le passé, par exemple quand on a mis en place la politique des grands frères.
Puis certaines choisissent aussi.
Mais bien sûr, il y a des femmes qui choisissent. Il y avait des nègres africains et des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein. Et oui. puis il y a aussi.
Vous ne croyez pas, vous, une femme qui choisit de porter le voile ou
mais bien sûr,
pas.
Mais non, mais je crois que ces femmes sont pour beaucoup d'entre elles des militantes de l'islam politique. Mmh. Et je les aborde comme des militantes. Et
à un moment donné, ce qui est très intéressant, c'est que quand elle parle des salafistes, en arrière-plan, les images qui sont proposées sont celles du Salon du Bourget. Qui n'est pas anodin aussi en termes de représentation et de corrélation. Le Salon du Bourget, c'est le salon annuel de rassemblement des musulmans de France qui se sont dernièrement, l'IOIF est devenu musulman de France. Bon. Et il montre ces allées-là où il y a des femmes dans le marché du Bourget pour illustrer l'emprise salafiste des quartiers. Par ailleurs, elle cite deux groupes. On va revenir aussi là-dessus dans la présentation. Par contre, ces deux groupes-là, c'est pas anodin qu'elle les cite à ce moment-là. Elle cite le collectif des femmes sans voile d'Aubervilliers, qui tous les 15 jours vont se poser sur une terrasse de café. Comme vous avez vu le sujet sur Sevran, le café qui était soi-disant interdit aux femmes, alors qu'il n'a jamais été interdit aux femmes, mais qui a fait polémique. Enfin voilà, qui a fait polémique. Politiquement ça sert et on va voir pourquoi aussi et donc elle présente à ce moment-là les femmes qui demandent à être aidées d'ailleurs elle le répète à chaque fois c'est son rôle d'aider les femmes qui veulent s'en sortir sans compter la comparaison à la fin avec les nègres américains qui étaient pour l'esclavage donc elle dit entre la tenue des femmes et leurs droits il y a un lien l'enjeu c'est celui du contrôle social du corps des femmes. Elle précise alors son inquiétude, c'est l'ensemble des femmes musulmanes qui sont sous cette pression, sous l'emprise grandissante des salafistes, donc qui est illustrée par les allées du salon annuel du Bourget, qui se sont mis en situation de dire aux musulmans de France qui est un bon et qui n'est pas un bon musulman. Des musulmans, donc, dit-elle, qui ne demanderaient qu'à vivre dans le respect des lois de la République et même des bénéfices des lois de la République. Et tout à l'heure, dans l'introduction, on parlait de la laïcité. Et la laïcité, finalement, elle devient, au fur et à mesure des années, depuis 2004, associée à une deuxième thématique, qui sont les valeurs de la République. D'accord ? Pour la ministre, donc, ces tenues révèlent l'enfermement du corps des femmes. Elle pense que ces tenues sont indirectement liées à des restrictions de circulation des femmes dans certains espaces publics, sous-entendus dans les quartiers populaires, menaces sans cesse instrumentalisées de manière opportuniste, donc comme je vous le disais dans l'affaire du café de Sevran, ou encore, je ne sais pas si certains se souviennent, de l'affaire du bikini dans un parc public à Reims. C'est en plein été, fin juillet 2015, il me semble. Il y a une bagarre qui éclate entre deux filles. Et les médias, alors je ne sais pas par qui sont alertés, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. En tout cas, les médias finissent par dire que la jeune fille était en bikini dans ce parc et qu'elle a été agressée parce qu'elle était en bikini dans ce parc. Et donc, c'était l'illustration qu'il y avait une menace sur le corps des femmes jusque dans des espaces publics. Et donc, SOS Racisme est rentré dans la brèche. Ils ont fait une... Ils ont fait quelque chose de très drôle qui était un rassemblement en maillot de bain dans le parc public. Et en fait, il s'avérait que c'était une embrouille entre deux jeunes filles et qui n'avait rien à voir avec, une idéologie salafiste ou autre qui empêchait cette jeune fille d'être en bikini dans ce parc. Donc, pour revenir au propos de Laurence Rossignol, et si j'utilise, c'est qu'elle illustre finalement une manière de parler du contrôle des corps des femmes dans le champ politique, enfin dans les discours politiques. Et elle dit, ce que je crois, c'est de garantir aux franco-musulmans de les protéger, de les soutenir. Et sur les femmes qui choisissent, elle explique qu'il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elle assimile alors celles qui choisissent de le porter en deux catégories. Celles qui ont cédé et celles qui sont des militantes, dit-elle, de l'islam politique, et donc dénonce le projet de société que ces femmes musulmanes portent avec le soutien de toutes les grandes marques de prêt-à-porter, parce qu'elle parle d'une idéologie aussi pour ces marques-là. Donc les propos tenus lors de cette interview, finalement, sont caractéristiques de l'impasse de la pensée postcoloniale en termes de liberté. Non seulement elle renvoie à un négationnisme sur l'exploitation esclavagiste des empires, mais elle révèle grandement également l'inconscient colonial qui s'exprime dans la catégorie de franco-musulmans. Franco-musulmans, ça renvoie à la catégorie des indigènes algériens sous l'Algérie française. Donc elle nomme des Français, des Françaises, en tant que franco-musulmans. Au-delà, se jouent les figures des femmes musulmanes qui résistent et celles qui cèdent. L'instrumentalisation d'exemplarité des premières n'est plus à démontrer. Elle renouvelle la figure des femmes algériennes se dévoilant sur la place publique lors des cérémonies de dévoilement organisées par Madame Salan et Madame Massu, les femmes des généraux coloniaux pendant la colonisation algérienne et membres de l'OAS. Je ne sais pas si vous avez vu cette affiche qui est « N'êtes-vous pas belle, dévoilez-vous ». Si vous connaissez cette affiche. Donc à chaque fois, Madame Salan et Madame Massu utilisaient des femmes algériennes qui étaient dans leur groupe qu'elles devaient civiliser, qu'elles devaient émanciper, en leur demandant, lors des cérémonies de dévoilement, de se dévoiler publiquement pour donner l'exemple. Donc c'est la première catégorie, ce sont celles qui acceptent le jeu pour montrer l'exemple. Donc on a la figure positive de la musulmane laïque ou civilisée qui a accepté les lumières de la République et la figure négative de la musulmane voilée. Le choix ici est indirectement lié au paradigme postcolonial qui veut que la liberté confirme l'idéologie hégémonique. Donc il y a liberté à partir du moment où on s'inscrit dans ce que veut, par exemple, ici, Madame Rossignol. Pour Nassira Guenif Sulaimas, dans son article « Altérité de l'intérieur », la question du voile se présente comme le cas d'école genré, racisé, postcolonial. Elle explique que cette vision stéréotypée et diffuse ne peut être possible qu'à condition d'être ancrée dans une vision française de l'islam, qui renvoie forcément à l'histoire coloniale. Elle est aussi intriquée à la vision orientaliste qui caractérise cette histoire, qu'Edouard Saïd nous aide à penser. Donc, arrêtons-nous un instant sur le contexte politique et historique. Une démarche critique qui s'intéresse aux conditions de la production culturelle des savoirs sur soi et sur l'autre et à la capacité d'initiative ou d'agency des opprimés implique qu'on s'intéresse au prisme dans lequel on s'inscrit. Ici, c'est le postcolonial, qui permet de discuter cette impensée féministe, d'où la nécessité et l'urgence de le penser, de diffuser cette critique décolonisée, afin de transformer, de décoloniser le féminisme. Le postcolonial, ici, est défini par Stuart Hall de la façon suivante. Elle est déjà là. Le terme postcolonial fait référence à un processus général de décolonisation, comme la colonisation elle-même a marqué les sociétés colonisatrices aussi fortement que les sociétés colonisées. D'où la remise en cause de l'ancien binarisme colonisé-colonisateur dans la nouvelle conjecture. Et en effet, l'une des valeurs principales du terme postcolonial est d'orienter notre attention sur le fait que la colonisation ne fut jamais seulement externe aux sociétés de la métropole impériale. Ce qui veut dire que finalement, la colonisation a eu un impact dans les colonies, mais qu'elle a un impact aussi dans la société qui colonise. Et ici, on est face à cette impensée postcoloniale en France, dans les politiques publiques, les débats politiques, etc. Aussi, l'argumentaire qui consiste à opposer deux types de figures de femmes musulmanes est courant, entre celles qui résistent et dénoncent la recrudescence des discours salafistes et celles qui habitent les normes de leur foi, comme a pu le démontrer Sabah Mahmoud en Égypte en expliquant les dynamiques qui les motivaient. D'un côté, la figure valable de la musulmane laïque qui n'est plus musulmane, souvent, car ayant quitté l'islam comme modèle d'intégration réussie, donc elle est le modèle d'intégration réussie, et de l'autre, la figure insolvable de la musulmane qui porte un foulard et tient un discours en termes de liberté et de droit ou de respect du libre exercice des cultes qui est représentée, elle, comme une figure indésirable, sachant que la rhétorique de la liberté ou du libre exercice des cultes, c'est la laïcité de 1905. Donc, là où l'appartenance au corps national devrait s'opérer, par exemple à travers la naturalisation donc pour les enfants issus de l'immigration, il y a sans cesse le rappel de la condition d'altérité du sujet politique. Ainsi, Sayyad parle, lui, de corps étatisé. Pour Ben Barka, c'est le corps d'exception, dans lesquels la souffrance, et je le cite, se poursuit jusque dans l'acte de naturalisation qui vient rappeler aux individus concernés leur condition d'émigré-immigré. Naturalisés ou héritiers des conditions d'existence politique et d'illégitimité de leurs parents, les enfants de l'immigration héritent par là même des représentations d'illégitimité qui se pérennisent à travers la stigmatisation et l'exclusion de l'espace public. Français de papier selon Sayyad, ils ne peuvent jouir d'une égalité effective car maintenus aux marges du nous national. Aussi, la criminalisation, là c'est sur les sans-papiers et des clandestins, le contrôle aux faciès, trouvent à chaque fois leur légitimité dans ce processus générateur de la racialisation visible des identités. Donc, face au plaidoyer de Laurence Rossignol sur l'enjeu du contrôle social du corps des femmes, elle parle du contrôle social du corps des femmes, donc 5 femmes féministes musulmanes engagées répondent dans une tribune intitulée « Pour en finir avec le contrôle politique du corps des femmes ». Le titre souligne insidieusement le lien entre le social et le politique, venant renverser la hiérarchie dans les propos de la ministre entre ce qui fait loi et ses effets. Une autre réalité est décrite donc, par les premières concernées dans cette tribune, non pas l'oppression des salafistes sur la vie de ces femmes, non pas la restriction de s'asseoir à une terrasse de café ou de vaquer librement dans l'espace public, mais l'oppression islamophobe qui exclut, violente verbalement et physiquement, ces femmes au quotidien. Cette tribune vient rendre visible ce qui est invisible dans le paradigme actuel, à savoir la déshumanisation des femmes musulmanes qui portent un foulard à cause d'un choix jugé comme négatif, leur stigmatisation croissante et leur exclusion sociale et économique. Beaucoup d'études ne s'arrêtent qu'au processus d'islamophobie, rendant peu visibles les effets concrets d'une si longue stigmatisation et déclassement. Et si on a le temps à la fin, je vous présenterai un article que je suis en train de rédiger sur les effets concrets de l'islamophobie dans la vie des femmes musulmanes dans leur vie professionnelle. Et on voit que ça a des vraies conséquences en termes d'empowerment, en tout cas de limites dans leur vie, et qu'elles sont obligées de développer des stratégies d'empowerment marginales. Donc la parole des femmes concernées dans cette réponse au propos de Laurence Rossignol est radicale. Elle analyse une logique d'exclusion qui euphémise sa violence sous couvert de féminisme. Ces femmes disent non à ceux qui affirmaient parler pour elles, ainsi elles participent de la marge au débat public. Ici je citerai Myriam Cook qui pose la question de savoir si les féministes musulmanes ne sont pas en train de créer des espaces de pouvoir en émergeant des marges vers la représentation. Les femmes voilées sont ainsi les cibles, et ça c'est dans la tribune sur Mediapart, les cibles privilégiées d'un discours islamophobe et d'un racisme d'État depuis de nombreuses années. Cette vision essentialisante participe à aggraver le racisme et l'islamophobie dans notre pays. C'est au nom d'un féminisme opérant en tri sélectif racialiste et culturaliste que la ministre distribue des bons points aux femmes qui auraient bien compris ce qu'être libérées et des mauvais points à ces femmes complètement aliénées, avalisant une seule et unique bonne manière de se libérer. Donc ça, c'est dans la tribune. Et pour illustrer le propos, ça se passe juste avant l'épisode du Burkini. Et là, on a bien vu, en fait, finalement, comment le discours politique, finalement, permet de rendre acceptable déjà une vision uniforme, islamophobe des corps des femmes dans l'espace public, et comment ça se met en acte sur les plages en France à savoir que là où ça fait la une dans tous les journaux internationaux, au moment où 4 ou 3 policiers, je ne sais plus, demandent sur la plage de Nice à une femme qui avait un haut à manches longues, avec un pantalon et un foulard sur la tête, qui n'était pas en burkini donc, le burkini c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, de se dévoiler. La laïcité de 1905, avant la rupture de 2004, qui étend le devoir de neutralité aux usagères des établissements publics, c'est une neutralité des agents, des représentants de l'État seulement, et des bâtiments aussi, pour assurer l'égalité de traitement dans le service public. L'égalité des citoyens dans le traitement des services, du service public. Et donc là, effectivement, en 2004, on est dans une rupture qui fait que même les usagers sont tenus à cette neutralité qui n'avait pas de sens en 1905. Même s'il y a eu des débats houleux aussi autour de 1905, il y a eu même pour les hommes d'église, hein, à un moment donné, il y avait deux visions de la laïcité qui s'opposaient, celle d'Émile Combes et celle d'Aristide Briand et d'autres. Celle d'Émile Combes, c'était une neutralité comme aujourd'hui on l'a entendu autour du burkini. C'est pas de signe religieux dans l'espace public. Il y a des hommes d'église qui pouvaient pas sortir en soutane à un moment donné. C'est pour essayer d'être dans la loi d'apaisement qu'ils voulaient. Ils ont dû faire des voilà. Ils ont avancé et reculé pour trouver le juste milieu. Donc cette tribune qui est publiée en 2006, elle vient dire quelque chose du chemin opéré en 13 ans. 13 années, c'est le nombre d'années écoulées entre la mobilisation contre les lois, la loi du 15 mars 2004 et la production du livre collectif dans lequel est repris la tribune que j'ai ramenée ici, dans lequel j'ai écrit également « Voix les préjugés », qui tente à reprendre la parole. Reprenant à leur compte le slogan du MLF, les femmes qui écrivent cette tribune concluent par « Ne nous libérez pas, on s'en charge » et qui implémentent en disant « Femmes, noires, maghrébines, musulmanes, voilées et autres, nous sommes des cumulardes de toutes les exclusions. Et en filigrane, finalement, ce qu'on a, c'est surtout une posture politique forte d'insubordination, en sachant que on reprend la rhétorique ici du contrôle, Madame Rossignol parle du contrôle social des corps, de corps des femmes, et ici on est dans le contrôle politique du corps des femmes, parce que qu'est-ce que c'est d'autre que de dire comment on peut s'habiller ou pas. Donc j'ai rencontré lors de ma recherche et de mon engagement féministe aussi beaucoup de féministes musulmanes dans une détermination similaire, dans une démarche similaire, à savoir de se réapproprier cet argument-là qui a des incidences après dans leur vie personnelle également et dans leur foi pour celles qui sont musulmanes. À chaque fois, il s'agissait de femmes engagées contre l'islamophobie. Et ici, on va essayer de voir quelle filiation on peut trouver à ce mouvement né en France dans les années 2000. En fait, j'allais dire, la vraie naissance de ce féminisme musulman, c'est autour de la loi du 15 mars 2004. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces filles qui n'ont pas ce capital militant, social, etc., et même politique tout simplement, se retrouvent confrontées à une violence qui leur est faite en termes de liberté et de choix, et que pour le coup elles vont s'inscrire dans le militantisme. Leur premier engagement est contre l'islamophobie, contre la loi du 15 mars 2004 et toutes les violences que ça implique après dans leur quotidien en termes d'exclusion et de stigmatisation, mais que c'est à partir de là que naît leur je vais pas dire la conscience féministe parce que ça serait vraiment réducteur de dire ça, mais voilà, l'engagement féministe, en tout cas en termes politiques. C'est ce qui m'a amené à émettre l'hypothèse que le féminisme musulman en France est à la fois la continuité d'un engagement féministe d'abord antiraciste, puis d'une inscription dans des réseaux transnationaux de féminisme musulman qui permet de penser les questions, par exemple, qui traversent la vie des femmes musulmanes entre elles. Et on va en avoir un exemple juste après. La transmission populaire de la mémoire des luttes de l'immigration étant très faible, c'est sur d'autres registres que les mobilisations autour de la loi du 15 mars 2004 ont eu lieu. Et donc, je vous le disais, la stigmatisation et l'exclusion croissante due à l'islamophobie. La mobilisation du discours féministe pour exclure une catégorie de femmes jugées comme indésirables par leur non-conformité Alors là, j'avais mis aux valeurs de la République et j'allais dire plutôt à une esthétique républicaine, transcendée par le principe juridico-politique de la laïcité, va opérer un affrontement idéologique entre des femmes qui défendent le libre exercice du culte, la liberté fondamentale d'instruction à l'école, par exemple comme dans le collectif Une école pour toutes et tous, ou même le danger de légiférer sur une tenue. Parce que, en fait, à partir du moment où on a légiféré sur une tenue, on a fait une loi d'exception. On a fait une loi pour certaines personnes. Et là c'est plutôt grave. De l'autre côté, celles qui sont communément appelées dans le milieu militant les éradicatrices, ces femmes qui aimeraient éradiquer de l'environnement public les femmes qui portent un foulard, tellement leur vue leur est insoutenable. L'argumentaire qui est utilisé déplace sans cesse la question du foulard, de la visibilité du foulard en France, de femmes qui portent le foulard en France, à la décennie noire en Algérie, à la révolution iranienne, à la menace de l'islam politique dont seraient porteuses officieusement celles qui portent le foulard. D'ailleurs, ce que dit Laurence Rossignol vient d'un livre qui a été écrit par Fadela Mara sur Ni pute ni soumise, déjà en 2002-2003. En 2003, parce que c'était 2003, en disant que celles qui portent un foulard, ce sont des militantes de l'islam politique et qu'elles sont très dangereuses. Donc en France, en fait, en face des citoyennes françaises qui ont compris que l'inconscient colonial est encore opérant et qui essayent de poser ça sur la table, qu'ils jalonnent la politique d'intégration et que la lutte contre le terrorisme permet de réactualiser. Et en fait, ici, on est en face d'un rapport du dominant à l'altérité radicale qu'il rejette. Ceux qui mettent à la marge de la société ne sont pas tant ceux qui sont étrangers ou immigrés ou hors d'eux, c'est le regard que porte sur eux le dominant ou le corps national qui serait soi-disant homogène et donc pour qui cette étrangeté est radicale. D'ailleurs, à ce titre... Il y a une pièce de théâtre qui a été diffusée cette année, peut-être qu'elle passera par là, je ne sais pas, qui s'appelle « Ceux qui nous regardent » sur la question du foulard et qui renverse aussi ce regard. C'est-à-dire que plutôt que sans cesse être en train d'interroger le foulard, qu'est-ce qu'il dit, son sens, l'exégèse coranique, et tralala, tralala, de se poser la question à ce que ça nous en renvoie à nous que de voir une femme qui porte un foulard. Qu'est-ce qui nous traverse l'esprit quand on voit ça et pourquoi il y a problème? Et cette pièce-là, elle avait misé justement sur comment on regarde ce phénomène-là. Alors, sur l'illégitimité, donc on continue là-dessus. Comment on passe de l'illégitimité à l'invisibilité? Je vous disais tout à l'heure que la première mobilisation politique des filles, par exemple, alors, sur cette question-là du 15 mars 2004, parce que je ne vais pas retracer l'histoire des luttes de l'immigration, en tout cas sur la liberté religieuse, à travers le port du foulard, elle permet en fait d'abord la critique de ce qui se présente politiquement, de la loi qui arrive. Mais en fait, Myriam Cook, qui est anthropologue américaine, elle nous parle de la critique multiple que ça va induire dans la vie des femmes, des féministes musulmanes. Et finalement, les polémiques politico-médiatiques récurrentes, elles ont complètement sorti le foulard de sa dimension religieuse pour les femmes qui vont militer, pour lui donner une signification politique et sociale. Aujourd'hui, c'est pas rare sur mon terrain que des femmes qui ont porté le foulard le retirent, par exemple, déjà, ou sont complètement des outsiders, c'est-à-dire qu'elles vont le retirer quand elles sont dans leur communauté religieuse, dans des assemblées religieuses, etc., et elles vont continuer à le porter là où ça pose problème. Donc, c'est complètement politique, hein, la dimension religieuse est, voilà, à sauter. Donc moi, je les appelle les outsiders, parce que voilà, il y a cette conscientisation politique qui vient complètement perturber le sens qu'elles ont donné. Et il y a aussi cette déconstruction de quand on pense femme voilée, on pense en termes de quelque chose de très linéaire, de très homogène. Et en fait, depuis toujours, il y a des femmes qui essayent le voile, qui se dévoilent, qui le remettent ou qui ne le remettent pas du tout, ou qui le mettent de manière très orthodoxe, qui finissent par le mettre autrement et qui finissent par le faire sauter aussi. Enfin, sans dire que c'est une évolution, justement, en termes d'ascension, pas du tout. Je veux juste dire que la vision homogène qu'on a d'une femme voilée, d'ailleurs cette figure de femme voilée, il faut la déconstruire, elle est complètement fausse. Elle est figée dans le regard qu'on porte justement sur ces femmes. Et justement, la déshumanisation dont je parlais tout à l'heure, elle est problématique parce qu'elle vient aussi être reprise dans le groupe musulman où on fétichise complètement le voile, le foulard. Ça devient l'étendard d'une piété ou de quelque chose d'abouti. Alors qu'en fait, c'est juste la réponse, c'est juste une réaction politique qui fait qu'on fétichise le foulard à ce point. Et que vous allez voir, dans la filiation, c'est pas si évident que ça, dans la filiation des mouvements féministes. Donc je vous le disais, hein, quand on sommet d'élaborer une rhétorique défensive sur leur subjectivité, leur positionnement vis-à-vis du foulard, les musulmanes vont mobiliser le discours féministe pour défendre leur position. Mon corps m'appartient. Ne me libérez pas, je m'en charge, etc. Implicitement, la mobilisation de ce discours réactualise leur rapport au corps et aux normes de genre dans une posture critique. C'est là que ça devient intéressant. Cette posture de justification, finalement, c'est aussi le corollaire, le fait de demander à quelqu'un de se justifier, c'est aussi le corollaire d'une posture de hiérarchisation. Parce que quand on semble quelqu'un de se justifier, c'est qu'il y a quelque part de la domination qui implique qu'on peut poser cette question-là. Et donc une critique radicale de la politique assimilationniste qui impose aux minorités de se fondre dans le groupe majoritaire, d'effacer toute particularité inesthétique pour le groupe dominant, en somme de se blanchir et de s'invisibiliser. C'est ce que Marie-Hélène Boursier décrit ainsi, elle dit « Deux minorités, elles devront disparaître dans la majorité, deux visibles, on rêve de les rendre invisibles. » Et en fait, l'invisibilisation, c'est le processus d'effacement des différences imposées par la culture dominante. C'est de l'insupportable visibilité religieuse dans l'institution scolaire dont il est question dès les premières polémiques sur le foulard à l'école, dans l'histoire des affaires des foulards de Creil en 1989, où trois collégiennes, Samira, Laïla et Fatima, vont être exclues du collège pour refus de retirer leur foulard dans l'enceinte du collège. Donc, qui est le début finalement de toutes ces polémiques. Virginie Martin et Pierre Lénel ont fait une étude sur les textes justement de Marie-Hélène Boursier, Christine Delphi et Nasser Aghini sur l'AMS par rapport aux textes critiques sur le discours républicain. Ils retiennent que la République adopte une attitude coloniale avec des subalternes qu'elle continue de créer. Au total, elle crée des altérités subalternes de l'intérieur et pour le démontrer, ils utilisent les cas d'école de la fille ou de la femme voilée. Cette affaire du foulard, tant dans la production des discours dominants que dans leur diffusion, et de mise en implication dans les institutions de l'État, illustre la domination structurelle ainsi que la violence qu'elle induit. Et c'est Butler qui dit qu'en fait, les mots ou le discours politique, il est fermant en fait d'une violence symbolique qui peut prendre forme à partir du moment où elle est légitime. Et je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais été invitée par une association qui lutte contre l'islamophobie et je leur avais justement dit de faire attention sur les visuels qu'ils diffusaient parce qu'à un moment donné, il y avait une jeune fille où il y avait plusieurs bras au-dessus d'elle qui voulaient lui arracher son foulard et il y avait une citation qui était « Laissez mon voile tranquille ». Et en fait, j'aurais dit « Mais on s'en fout de son foulard ». Là, d'un coup, il y a eu ce blanc aussi. Je dis, on s'en fout de son foulard. Parce qu'en fait, le foulard, on peut le déchirer, on peut l'arracher. C'est rien. C'est parce qu'il est porté par une femme, par une jeune fille, que c'est grave. Parce qu'en fait, là, vous êtes aussi dans le processus de déshumanisation, qui est qu'on parle d'un foulard. D'ailleurs, si les discours politiques sont si véhéments, si radicaux, c'est parce qu'à chaque fois, on parle d'un foulard et on ne parle pas de femme derrière. On oublie la dimension subjective qu'il y a derrière, le choix des femmes qui ont décidé de le porter, qui voilà. Je leur disais justement, faites attention à ça parce que le discours, lui, c'est le ferment d'une violence qui le renferme, mais on peut sans réfléchir se réapproprier ce type de discours et finalement faire violence aussi. Aux femmes qui le portent parce que on oublie complètement qu'il y a des êtres humains derrière. Pour Boursier, donc Marie-Hélène Boursier, elle rappelle que cette figure régressive, celle dont je vous parlais, la figure négative, elle permet de réactiver des formes de différenciation structurelle et raciale et finalement, le discours qu'on entend là dans la bouche de la ministre, comme tous ceux qu'on a entendus depuis 1989 par épisode, parce que ça n'a pas été linéaire non plus, l'anthropologue Lila Abouloud, elle compare, elle dit finalement, le discours de la mission civilisatrice vis-à-vis des femmes musulmanes à l'époque coloniale, avec le dogme chrétien, a été remplacé par le dogme séculier et libéral aujourd'hui, et que c'est la même violence qui est faite en termes de colonialité du pouvoir. Donc ici, on est face à une assignation identitaire et communautaire qui est indépassable, parce qu'on enferme les individus dans une figure, dans une condition sociale et politique indépassable. Donc, on a vu que la Brigade des Marques, qu'elle cite, ou le collectif des femmes sans voile, sont les figures qui sont valables et qu'elle valide. Et en fait, ça se passe depuis des décennies, depuis ni plus ni soumise en premier lieu, qui ont été créées, formées par le PS juste avant, au moment de la loi sur le foulard en 2004. Donc, parce qu'elles offrent finalement, d'ailleurs, on leur offre un pouvoir incommensurable à ce moment-là, un soutien politique opportuniste, et parce qu'il vient finalement corroborer le discours dominant. Tout en disant que ce sont des féministes de culture musulmane qui le portent, donc ce sont les premières concernées. Donc on a Fadela Amara, Lydia Guérouche, Georgia Van, etc., etc. Et à chaque fois, cette opposition, d'ailleurs, souvent sur les plateaux télé, c'est comme ça, c'était Saïda Kada face à Fadela Amara, ou face, je ne sais pas si Lydia Guérouche était assez grande à cette époque-là, mais enfin, il y a, voilà, ou Georgia Van, etc. C'est toujours l'opposition entre deux, la figure négative, la figure positive, et puis. Puis on les laissait se crêper le chignon et on démontrait que l'une était régressive et l'autre était libérale. Alors, quand je vous disais la critique multiple, en fait, c'est que à cette islamophobie qui les empêche finalement d'accéder à certains espaces, qui les renvoie sans cesse dans l'espace public finalement, parce que ces femmes-là sont souvent interpellées sur... tout à l'heure, je vous racontais... lors de mes entretiens, il y a une femme qui me disait qu'elle était en sortie un dimanche dans un musée et qu'un homme est venu la voir et qui lui a dit votre présence dans ce musée me dérange. Et elle m'explique très, très simplement qu'elle a passé 2 heures à discuter avec lui. Et je ne sais pas si elle s'est rendue compte de l'énergie qu'elle mettait individuellement à essayer de déconstruire un monsieur qui est parti en lui disant que de toute façon, il n'aimait pas les femmes qui portent un foulard et qu'il avait été ravi de discuter avec elle pendant 2 heures. C'est 2 heures qu'elle n'a pas donné à sa sortie familiale. Enfin, en termes de coût humain, c'est énorme. Et donc, en fait, cette lutte contre l'islamophobie, elle vient finalement, avec la critique multiple, trouver des résonances dans la communauté musulmane. Pour combattre le sexisme qu'elles vivent dans leur communauté religieuse et en dehors, évidemment, parce que le féminisme, ça ne s'arrête pas aux portes de son groupe d'appartenance, tout en étant vigilante, à cause de l'islamophobie, à ne pas tomber dans la diabolisation de leur communauté d'attachement ou de leur communauté religieuse, et de souligner à chaque fois le côté diffus du sexisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode du drame de la Saint-Sylvestre à Cologne, où d'un coup, alors que c'est un moment de crise politique parce qu'il y a un afflux de migrants, etc., que les pays européens ne savent pas trop gérer, ou qu'ils ne sont pas trop volontaristes pour gérer ça, où d'un coup il y a une agression, où il y a un sexisme qui est insupportable, qui va pouvoir peut-être même justifier une exclusion, où on peut tout imaginer, des migrants. Et en fait, là, on a quelque chose qui est assez aberrant. Moi, j'avais écrit un papier là-dessus sur le Huffington Post, qui était de la banalité du sexisme et du racisme, qui finalement, ce sexisme-là, il était insupportable. Là, c'était parce que c'était des hommes migrants qui agressaient des femmes que ça a fait la une partout, en France, en Allemagne, en Europe, etc. Et en fait, il y a un sexisme qui est hyper visibilisé, celui des hommes non blancs, et il y en a un qui fait presque partie de, du quotidien, qui est le sexisme des hommes blancs, mais qui, lui, est sous-visibilisé. Alors, vous avez à l'esprit l'affaire Baupin, enfin, toutes les histoires qu'on a eues, DSK, etc. Dernièrement, Polanski, où on a même eu des actrices qui ont dit que c'est il y a 14 ans, même des personnes politiques hein, qui ont dit ça, c'est qu'il y a prescription. Enfin, à un moment donné, c'est quelque chose qui est presque tolérable, alors que d'un autre côté, toute proportion gardée, mais en tout cas, c'est le sens du propos, c'est de se dire le sexisme, il n'appartient pas à une culture. Et pour ça, je vous renvoie aux travaux de Letty Volpp, qui, je crois, juriste, qui a écrit un article qui est disponible dans Cairn, qui est « Quand la culture devient responsable du mauvais comportement », et qui montre comment ça a un impact même dans les décisions juridiques. Donc, la posture de ces féministes, c'est de refuser l'instrumentalisation de leur cause à des fins islamophobes qui survisibilisent le sexisme des hommes musulmans ou arabes et qui invisibilisent dans le même temps le sexisme que je dirais le sexisme ordinaire. La critique politique, finalement, ici, c'est le premier pas vers la critique multiple parce qu'elle amorce la conscientisation qui amène à la critique du discours religieux dans lequel les femmes sont aussi objets de discours. Parce qu'il y a le level du pouvoir qui est le contrôle politique du corps des femmes, mais il y a le sous-level, qui est quand même important en termes de pouvoir, qui est le contrôle religieux du corps des femmes. Et donc là, on va prendre l'exemple des femmes dans la mosquée, dans lequel j'ai été impliquée aussi, qui démontre l'intrication de deux processus d'invisibilisation. C'est-à-dire que, en fait, l'islamophobie qui veut invisibiliser les femmes musulmanes parce qu'elles sont insoutenables à l'esthétique républicaine, finalement, dans la vie de ces femmes, trouve une double oppression qui est aussi l'invisibilisation dans leur communauté religieuse. Par exemple, ici, dans le cas de la Grande Mosquée de Paris, en octobre 2003, qui décide de reléguer les femmes au sous-sol de la mosquée parce que il ne faut pas se mélanger, parce qu'il n'y a pas de mixité. Enfin, la mixité est prohibée, etc., etc. Donc ça, dans une mosquée qui est soi-disant modérée, qui est un espace dans lequel les hommes et les femmes politiques viennent discuter de la place de l'islam en France ou de l'islam de France, etc. Et donc là, les femmes dans la mosquée, c'est de dire trop c'est trop, on subit l'islamophobie et puis maintenant de votre part un sexisme qui est insupportable. Donc l'action des femmes dans la mosquée, ça a été de transgresser l'ordre qui était d'aller prier au sous-sol et d'aller prier dans la salle principale, avec tout ce que ça implique de violence. De violence physique, de violence verbale, etc. Donc, on est en 2013 dans un contexte de polémique récurrente sur le danger islamiste, illustré souvent par des figures de femmes musulmanes voilées. Donc, on est juste un niveau avant le discours qui est diffus depuis le Burkini, qui est que les femmes qui portent un foulard sont des militantes de l'islam politique. Là, aujourd'hui, c'est acté. Laurence Rossignol l'a dit également. À l'époque, c'était plus diffus, c'était moins dit. Donc, face à un contexte aussi d'islamophobie croissante, hein, la Grande Mosquée allait cibler cette année-là par des tags néo-nazis sur sa façade et par une démonstration des femmes. Donc, pour des musulmans qui veulent se rebeller, c'est chaud, clairement. Donc, en fait, sans lien avec ces agressions. Pour les tags néo-nazis qui sont racistes et anti-religieuses pour la seconde revendiquée, l'imam, lui, décide quand même de reléguer les femmes au sous-sol de la mosquée avec un discours très, très sexiste à l'appui, en disant que la promiscuité homme-femme au sortir de la mosquée est insoutenable, que les femmes sont trop bruyantes, qu'elles ne sont pas obligées de venir prier, etc., à la mosquée. Donc, finalement, entre discours islamophobe stigmatisant et discours sexiste, les femmes dans la mosquée agissent. Mais ce qui est intéressant dans le collectif des femmes dans la mosquée, c'est qu'au début, nous sommes 10 femmes et que ce sont toutes des militantes engagées contre l'islamophobie. Et ça va être presque le collectif Une école pour toutes et tous. Et ça va être, j'allais dire, leur bouclier. Et vous allez voir pourquoi. Donc, à la fois pour rester... Vu que ça va faire débat, parce que le deuxième happening en décembre, les dirigeants de la mosquée sont au courant, Donc, quand on arrive à la mosquée, ils ont un vigile à l'entrée, hein, de la Grande Mosquée de Paris. Il dit faites attention, elles sont là. Il y a un journaliste qui nous accompagne pour simplement enregistrer parce qu'il sait qu'il ne peut pas filmer. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il demande aux fidèles, qui ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe, de faire barrage. Il ferme toutes les portes de la grande salle. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, il y a plusieurs portes pour entrer dans la salle principale, qui est derrière le patio. Et donc là, on a une rangée d'hommes qui empêchent les femmes de rentrer dans la salle. Et donc, on avait évidemment prévu qu'on nous empêcherait d'entrer. Et donc, on a déroulé nos tapis devant en disant, de toute façon, on fera la prière ici et pas en bas, etc., etc. Donc, ils ont tout essayé. Ils ont envoyé les femmes qui sont proches de la mosquée pour nous dire, non, mais ma sœur, c'est pas bien, il faut prier en bas. Ils nous ont envoyé des frères qui nous expliquaient, peut-être qu'on n'avait pas compris que prier, c'était en bas. Nous, on leur dit, non, mais on est au courant. Mais nous, on ne veut pas prier en bas, en fait. Nous, on ne veut pas avoir à se cacher. Et ce qui se passe, c'est que... alors, il y a celles qui étaient les plus activistes, je ne citerai pas son nom ici, mais qui décident de foncer dans le tas et de rentrer à l'antre. C'était un peu dangereux, quand même. Et puis, à un moment donné, pour les moins téméraires comme moi, on explique à un monsieur qui sortait de la salle de prière qu'on veut rentrer prier, seulement prier. Voilà, on veut rentrer dans cette salle. Et c'est lui qui décide de faire le passage et de nous laisser rentrer. Donc on rentre, on fait notre prière, on sort, on essaye de discuter avec tout le monde. Et en fait, ce qui se passe entre-temps, c'est que le journaliste qui est avec nous, il est séquestré par un administrateur de la mosquée. Donc c'est un peu chaud, on est obligé d'appeler la police, etc. Et ça finit par des coups, parce que l'administrateur en avait un peu marre. Et il nous explique qu'en nous chassant de la mosquée, alors il y avait des hommes avec nous, hein, qui nous accompagnaient aussi, il nous explique qu'ici c'est l'Algérie, c'est chez nous. Bon. Et il n'a pas tout à fait tort, parce que l'histoire de la Grande Mosquée de Paris avec l'Algérie est très, très, très ténue. Donc en fait, le but, en fait, quand dès le lendemain il y a tous les journalistes qui nous tombent dessus, c'est de rester vigilante à ne pas tomber dans la haine des musulmans, et de concentrer notre action simplement sur le côté féministe, qui est que des femmes agissent dans leur quotidien contre la domination patriarcale. Et en fait, donc cette double invisibilisation, et c'est pour ça que je vous parle de cette affaire-là, c'est que, à la fois parce que l'engagement contre l'islamophobie en termes féministes implique une critique multiple, et qu'en fait l'invisibilisation dans l'espace public, c'est exactement la même logique que l'invisibilisation dans le groupe religieux ici, qui est la relégation dans les espaces marginaux, qui s'inscrivent dans une logique patriarcale ou impérialiste dans le cas des colonies, etc. Donc en fait, qu'il s'agisse, donc tout à l'heure je vous parlais de Cologne, de la place Tahrir en Égypte, où les femmes, elles ont dû négocier leur présence grâce à des alliés hommes, comme on l'a fait nous dans les femmes dans la mosquée. En fait, les agressions qui sont dépouillées de tout sens politique, qui sont simplement parce que tu es une femme et que tu es présente dans l'espace public, elles sont l'expression transparente de cette loi patriarcale qui est diffuse dans le groupe. Une femme appartient à un homme, et si cette propriété en vient à ne plus être signifiée, même pendant une heure ou deux, comme c'était le cas dans la place Tahrir, ça c'est des féministes arabes qui le disent, alors ça veut dire qu'elle appartient à tous les hommes, à partir du moment où leur signification n'est pas claire. Donc la défense des femmes de la place Tahrir par des camarades masculins bien intentionnés, elle ne défait pas cette loi, justement elle l'illustre. D'accord. Et donc là, dans le cadre des femmes dans la mosquée, c'est pareil, c'est à un moment donné des femmes qui décident de faire loi ou de transgresser les lois, c'est insoutenable, et on doit d'ailleurs aujourd'hui, c'est toujours le cas, les femmes prient au sous-sol, non seulement elles prient au sous-sol, mais elles n'ont plus le droit de rentrer par la porte principale. Donc c'est pas une avancée, mais à un moment donné, de prendre ses responsabilités aussi, de dénoncer ce qui se passe dans le groupe religieux. On parlait de l'ALAB, l'association l'ALAB qui a fêté son anniversaire la semaine dernière. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celles qui font un documentaire qu'elles diffusent de ville en ville, donc vous pouvez les inviter aussi, qui tend à déconstruire les préjugés sur les femmes musulmanes. On s'est rendu compte que l'action des femmes dans la mosquée, elle a agi comme une onde, comme on parle de vague féministe, qui a trouvé finalement chez les femmes et chez certains hommes des relais pour se propager. Et mon constat aujourd'hui, c'est que la résonance de cette vague, elle fait des échos, même s'ils sont quelque peu timides, mais ils sont là en tout cas. Et la diffusion engagée du positionnement féministe a permis à d'autres femmes de s'identifier, c'était pas évident, de s'inscrire dans une logique similaire à leur manière. La lutte féministe, ici, elle reprend ainsi dans son double objet la lutte contre le sexisme et contre le racisme. Ici, l'islamophobie est un racisme. Et qui place la lutte féministe dans toute sa dimension politique, car les logiques patriarcales ou de pouvoir, elles invisibilisent, elles se légitiment moralement. Je vous le dis pour que vous ayez en écho légitimé moralement, religieusement, mais aussi les valeurs de la République, et qu'elle exclut les femmes de l'espace public, mais aussi politique. Aujourd'hui, si dans mon terrain de thèse, il y a énormément de femmes qui ne trouvent pas de travail parce qu'elles portent un foulard, parce qu'il y a eu capillarité de la prohibition du foulard, même avant que ça soit légal avec la loi travail du mois d'août dernier, en fait, les femmes, elles pouvaient plus travailler. Enfin, pour celles qui voulaient pas renoncer à porter le foulard. Et donc, elles sont obligées de créer des espaces d'empowerment. La question, c'était de savoir si finalement on était dans l'empowerment transformation sociale ou simplement contextuel, contingent à un moment donné, qui n'implique pas une critique politique plus radicale qui permet de transformer la société. Sur l'affiliation, en fait, dans les années 20, déjà les féministes arabes, finalement, elles étaient... et je pense que c'est important d'inscrire ça dans cette optique aussi sur les féministes musulmanes aujourd'hui en France, c'est que les féministes arabes, elles ont déjà été confrontées en fait à cette critique d'être les porte-parole de l'Occident. Elles étaient même contre le foulard. Et donc, quand elles disaient qu'elles étaient contre le voile des femmes, qui peut tout à fait se comprendre dans une optique féministe de pays arabes, justement, pas néocoloniale, j'entends, L'argument qu'on leur opposait, c'était vous êtes les porteuses de l'idéologie occidentale, etc., etc. Mmh. Dans les femmes dans la mosquée, ça a été la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en disant le féminisme est très, très disqualifiant, à un moment donné, c'est pour ça que c'était important aussi de remobiliser, de redéfinir le féminisme en disant un féministe décolonial, un féministe musulman, enfin, de réinventer des manières d'être féministe. Parce que dans l'inconscient collectif, le féminisme, c'est l'ennemi de l'Orient, ou des pays arabes. Je me rappelle d'un congrès musulman à Strasbourg où j'étais il y a quelques années et où un grand cheikh syrien parlait et disait « Il y a un complot contre la famille musulmane aujourd'hui venant de l'Occident et ce complot, il vise à faire exploser la structure familiale qui sacralise au possible, qui est le féminisme. » Et en fait, tout ça, dans la diffusion des discours, ça fait que à chaque fois, la vision de la féministe, c'était l'ennemi, c'était le complot contre la famille musulmane, on va chercher les femmes comme le faisait Madame Massu ou Madame Salan pour pouvoir entrer dans la famille la famille de l'indigène pour pouvoir faire sauter le truc, etc., etc. Il y a cet inconscient là qui est opérant et qui est important de rappeler parce que les féministes arabes, donc elles étaient à la fois elles étaient dans les luttes anti-coloniales et elles étaient dans des luttes féministes avec tout ce qu'on connaît en tant que féministe, c'est-à-dire la hiérarchisation des luttes, certaines où elles le font avec les hommes et certaines sans. Et à chaque fois qu'elles étaient dans la lutte contre le sexisme, on leur disait justement ça, c'est-à-dire vous portez le discours du colon, en fait, ça s'est intégré en vous, etc., etc. Et donc juste pour dire que aujourd'hui les arguments qu'on oppose, par exemple, aux féministes musulmanes en France, dans leur communauté, dans leur groupe religieux ou autre, sont des arguments en fait qui ont toujours été opposés aux femmes, aux féministes, même aux féministes arabes. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête pour pouvoir montrer que finalement ça vient pas de nulle part et qu'à un moment donné, si aujourd'hui par exemple les féministes musulmanes en France, elles ont défendu elles le voile parce que ça faisait partie d'une politique néocoloniale que de l'interdire ou de contrôler le corps des femmes, ça a permis aussi d'empêcher cet écueil-là qui était que par ailleurs, il y a beaucoup de féministes musulmanes qui finissent par faire tomber le foulard et c'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'on est voilà, la question du contrôle politique des corps, il y a besoin de la déconstruire très intimement pour pouvoir la dépasser aussi socialement. Voilà, excusez-moi d'avoir été si longue.
Merci beaucoup.